Je vous propose de partir d'un article qu'Edgar Morin a écrit l'an dernier, juste avant la crise sanitaire, tiré donc de Libération. Voilà ce qu'il écrivait. La structure cognitive qui, au sein de notre civilisation, disjoint l'humain, individu et société, du naturel, biologique et physique, est un grand obstacle pour une prise de conscience. C'est pourquoi les catastrophes de Tchernobyl, de Three Mile Island, de Fukushima ne provoquent que des émotions provisoires dans la grande léthargie. La question de cette grande léthargie est pour moi, et je pense pour notre société actuelle, une énigme assez cruciale. Et l'outillage critique proposé par Edgar Morin d'un grand réconfort. Cette pensée, marquée au fer rouge par l'expérience de l'embrigadement communiste, s'est construite en résistance à toute forme d'idéologie. On peut la qualifier de pensée de combat, s'évertuant à questionner les évidences, à changer d'angle, de focale, de temporalité. Et à la fin des années 1960, se greffe sur cette pensée la conscience que l'homme menace son propre milieu de vie, à commencer par les océans, dont le risque de mort frappe Morin. Sa conscience écologique, car il n'emploie jamais le terme écologiste, soulève la question de sa responsabilité d'intellectuel. Et au-delà du constat sur notre âge de fer planétaire, c'est-à-dire notre incapacité à relever les défis écologiques contemporains, quel levier d'action, hein, c'est une question qui est revenue dans notre débat de manière récurrente, quel levier d'action propose-t-il successivement des années 1970 à nos jours? Donc, je vous propose de suivre l'évolution de ces sensibilités écologiques à travers trois moments de sa vie et à travers trois publications qui nous serviront de repères, mais autour desquelles je naviguerai. Le paradigme perdu, la nature humaine de 73, Terre-patrie de 1993 et enfin La voix qui date de 2011. Ce sont des textes qui sont espacés d'une vingtaine d'années les uns des autres et eh bien nous invitent à nous transporter dans plus d'un demi-siècle de débats sur l'écologie que donc nous analyserons à la lumière de son œuvre, ses archives personnelles et en particulier des revues de presse qu'il a mises à disposition donc à l'IMEC. Donc, premier temps, l'appel des sciences de la vie qui correspond donc à cette période des années 1970, puisqu'il le dit à plusieurs reprises, son intérêt pour les questions écologiques naît dans le contexte californien, à un moment où, sur le plan de la pensée, il engage le dialogue avec les sciences de la vie. Et donc, cette conscience écologique, elle est vraiment liée à la découverte de l'alarmisme environnemental américain. En 1969, il raconte dans son journal de Californie qu'il découvre tout un univers, et en particulier des militants écologistes. Il est particulièrement stimulé par la rencontre de Clifford Humphrey, qui a détruit sa voiture, roule à bicyclette. Et pour lui, ça a du sens parce que, dit-il, écrit-il, voilà un militant qui va au-delà des vulgates marxistes et hippies en mettant en cause la croissance économique elle-même. Voilà. Il découvre aussi l'intégration des pollutions atmosphériques au paysage sonore. En 69, il y a une alerte au smog qui sous forme de sirène à Los Angeles, ce qui frappe également sa conscience. Et c'est en Californie qu'il forge cette conviction. L'homme ne doit plus être le maître souverain possesseur de la nature. C'est la nature qui doit faire sa révolution dans l'homme. Et ici, il cite Gary Snyder, « La conscience la plus révolutionnaire doit être trouvée dans les classes les plus impitoyablement exploitées, animaux, arbres, eau, air. » Et voilà, il s'enthousiasme, il dit « c'est le Green Power ». Et dans ce moment californien, dans ses souvenirs, revient de manière récurrente un article rédigé par Paul Ehrlich, que j'ai retrouvé, qui s'intitule « Éco-catastrophe ». Paul Ehrlich, c'est un jeune scientifique américain formé en zoologie et qui a publié l'année précédente, en 68, « The Population Bomb », qui est un essai néo-malthusien dans la filiation de son maître William Vogt, qui avait publié dès 1948, j'y reviendrai, « Road to Survival », avec toujours ces questions démographiques en point de mire. Et donc Edgar Morin raconte un petit peu le contenu d'éco-catastrophe qui, en effet, porte avant tout sur la prédiction de la disparition des océans. C'est un mode de narration dystopique. Hein. Ehrlich se situe en 1979 et il déroule le scénario catastrophe qui entre 1969 et 1979 parce qu'on n'a pas su prendre au sérieux les alertes dont on avait pourtant conscience dès 69. Et donc, voilà, il explique que avec le DDT qui contamine toute la chaîne d'alimentation de la flore sous-marine, eh bien, finalement, les océans vont disparaître, qu'à cela va s'ajouter de grandes famines, une surmortalité due au smog, bref, on court à la catastrophe. Donc, c'est un article marquant, à partir duquel Morin devient extrêmement attentif, réceptif aux manifestations de la conscience écologique qui sont de plus en plus manifestes dans le débat public, non seulement aux États-Unis, mais également en France et en Europe. Conférence de Stockholm en 1972, le rapport Meadows de 1972, et précisément en 1972, il participe à un colloque organisé par le Nouvel Observateur, qui est organisé à l'occasion de la publication d'Halte à la croissance, ce fameux rapport Meadows qui interroge les conséquences de ce credo de la croissance économique. Et il intitule sa communication, et c'est l'extrait que l'on a vu l'autre soir, où on avait ce Morin très enflammé et très engagé. Et il intitule sa communication « L'an 1 de l'ère écologique ». Alors, quel sens conférer à cette expression « L'an 1 de l'ère écologique » en 1972 en tout cas, quelle signification il lui confère? Premièrement, première interprétation, ça veut dire que l'ère écologique, elle commence. Bon. Et donc, en effet, pour Edgar Morin, et ça revient ensuite dans tous ses écrits jusqu'à nos jours, les années 1970 sont le berceau de la prise de conscience écologique. Et là, en tant qu'historienne, je mets un bémol. Il y a là une chronologie toute personnelle, puisque les dégradations naturelles, la relation prédatrice de l'homme à la nature sont dénoncées au moins depuis le 19e siècle, par les peintres de Barbizon cherchant à protéger la forêt de Fontainebleau, par les scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle réunis dans la Société d'Acclimatation. Bref, il y a toute une généalogie qui existe. Et en particulier, au second 20e siècle, depuis l'après-guerre, un certain nombre de scientifiques hein, issus des sciences dures publient des ouvrages d'alerte environnementale. Et évidemment, j'aurais bien aimé interroger Edgar Morin, vous interrogez-vous sur l'éventuelle connaissance qui était la sienne de ces ouvrages. Alors, La Société contre nature de Serge Moscovici, évidemment, hein, c'est son ami et ils sont en plein dialogue dans ces années 72-73 et dans les années précédentes. Mais je me demande dans quelle mesure, à l'époque communiste, puis à l'époque d'argument, Edgar Morin a connaissance de Road to Survival, des ouvrages et des expositions que Roger Haim, le directeur du muséum, écrit et organise. Je suppose que la fragmentation de la recherche étant ce qu'elle est, dès les années 50 et 1960, ce sont des ouvrages dont il n'avait pas connaissance, mais on peut en rediscuter. Et voilà, c'est une illustration justement de cette fragmentation de la recherche dont il est lui-même sans doute victime. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir que c'est dans le contexte californien, outre-Atlantique, dans un contexte où il a été arraché à l'ordinaire, où il est arraché à ses habitudes de lecture, à ses références culturelles et politiques, qu'il est réceptif à cette alerte écologique et à cette conscience environnementale. Deuxième manière d'interpréter l'an R de l'ère écologique a commencé. Ça veut dire ça aussi. Et donc, comment est-ce que Edgar Morin conçoit l'entrée des sociétés dans cette nouvelle ère écologique qui commencerait en 1972 ? Il écrit, et ça m'a frappé, ces cris d'alarme, au lieu de m'inquiéter, me rassurent. Ils signifient la prise de conscience d'un problème, donc les préliminaires d'une action correctrice. Ce qui m'inquiète, ce sont les problèmes où il n'y a pas de cri d'alarme. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la menace écologique, c'est la menace intérieure. Mais peut-être que la menace de pollution extérieure exprime-t-elle par projection la pollution interne dans laquelle se sent engagée cette civilisation. Donc, moi, la manière dont j'ai compris les choses, c'est que Edgar Morin est à un moment où il essaie de comprendre les symptômes de crise de civilisation. Et voilà, il a ce grand optimisme et cette confiance dans l'humanité qui lui fait croire que finalement ces cris d'alarme nous font entrer dans un processus de prise en charge du problème. Et je crois que depuis 1965, depuis introduction à une politique de l'homme, ce qui le soucie avant tout, c'est de trouver les moyens heuristiques pour décrypter cette crise de civilisation. Et donc, il est dans ce moment où il cherche avant tout à refonder la science de l'homme de telle sorte qu'elle sache, je cite dans le paradigme perdu, qu'elle sache intégrer l'homme dans sa réalité biologique tout en déterminant ses caractères originaux. Et donc, c'est la publication du paradigme perdu en 1973, qui est le résultat d'un dialogue avec les sciences du vivant. Alors, je vais peut-être passer sur la genèse de cet ouvrage, parce qu'on en rediscutera, mais c'est vrai que Morin s'enrichit des discussions au sein du groupe des 10, qui existe entre 1968 et 1976, qui réunit des médecins, des biologistes, des ingénieurs, des économistes, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des hommes politiques. Et c'est dans ces échanges mensuels, auxquels il ne participe pas systématiquement, qu'il y a cette réflexion sur les analogies possibles entre le fonctionnement de la société humaine et celui du monde vivant, et sur les limites également de ces analogies, et puis cette réflexion sur les répercussions sur la vie sociale des découvertes scientifiques et techniques. On peut noter aussi le fait que le 22 novembre 1972, il y a une réunion qui est organisée entre le groupe des 10 et le club de Rome sur justement autour de cette réflexion sur les effets de la croissance économique. Et en tout cas, c'est ce que Brigitte Chamac écrit, les 10 intègrent bien toutes ces questions de pollution industrielle, de démographie galopante, et d'enjeux écologiques de la croissance économique. Donc il y a vraiment des échanges qui nourrissent la pensée. C'est aussi dans ce moment de dialogue où Edgar Morin s'intéresse de très près à l'écologie, l'oikos, logos, la connaissance de notre maison, pour à cette science qui a été fondée par Ernst Haeckel en 1866. Dans son journal de Californie, il dit bien que l'écologie devient dans ces conditions une science plaque tournante. Et c'est ça qui l'intéresse. Il écrit « L'écologie est au carrefour d'une part d'une science multidimensionnelle et dialectique, d'autre part d'une nouvelle philosophie, religion, pan-biologique. » Et donc, pour refonder les sciences de l'homme, il faut passer par un dialogue avec l'écologie. Et Morin aime à citer cette phrase de Marx, hein, « Les sciences de la nature engloberont les sciences de l'homme et les sciences de l'homme engloberont les sciences de la nature ». Et donc, par conséquent, il écrit dans le paradigme, je cite, « La sociologie qui doit naître doit être tout d'abord une science naturelle dans le sens où la société est un mode d'organisation très répandu et sous des formes extrêmement diverses dans le monde vivant. » Donc, dans le paradigme, il intègre toute son étude des sciences du vivant. Il déplace la question de la place de l'homme dans le monde vivant à l'échelle géologique. Il mobilise des études d'éthologie sur les primates qui lui permettent de relativiser l'opposition entre culture humaine, instinct animal. Enfin, ce sont des choses bien connues. Et tout ça lui permet de déconstruire le dualisme cartésien vie-nature, homme-culture, réductionniste. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette déconstruction de ce dualisme et de ce paradigme, c'est que, évidemment, ça lui permet de remettre en cause l'hubris humaine qui est sous-tendue dans le postulat cartésien. Et en 73, il s'inscrit donc dans tout ce pan de la pensée écologique qui écrit ceci, hein, « Depuis Descartes, nous pensons contre nature assurer que notre mission est de la dominer, la maîtriser, la conquérir. » Et plus loin, « Le développement de la culture a permis à l'homme de s'adapter aux environnements les plus divers et les adapter à lui, d'aller puiser dans des niches écologiques extérieures les ressources qui lui étaient nécessaires, ce qui fait croire que l'humanité, de plus en plus maîtresse de la nature, s'en était émancipé. » Et donc là, il démontre, selon des méthodes assez similaires, ce que Moscovici avait démontré l'année précédente dans La société contre nature. Et quand je dis qu'il s'inscrit également dans tout un pan de la pensée écologique, on peut faire un rapprochement, par exemple, avec ce qu'écrivait Rachel Carson en 1962, hein, dans Le printemps silencieux, qui fait vraiment écho à... 62, hein, qui fait vraiment écho au petit épigraphe qu'il y a dans le paradigme de la nature, le paradigme perdu. Voilà ce qu'elle écrivait. Donc, vouloir corriger la nature est une arrogante prétention, née des insuffisances d'une biologie et d'une philosophie qui en sont encore à l'âge de Néandertal. Hein, il y a cette même image où l'on pouvait croire la nature destinée à satisfaire le bon plaisir des hommes. Et elle continue. Voilà. Alors, dans le débat public, comment cet essai, Le paradigme perdu, est-il reçu ? On peut dire que c'est un essai qui apparaît un petit peu comme un ovni, comme un essai inclassable. Je passe un petit peu sur les détails, mais beaucoup d'articles soulignent l'érudition transdisciplinaire de Morin, et à la fois, évidemment, eh bien, ça fait disparaître un certain nombre de repères, et donc cet essai est difficile à classer. Mais j'étais étonnée que la lecture politique de cet essai, c'est-à-dire Morin fait ressortir les périls écologiques, cette hubris de l'homme, la nécessité de refonder la politique, et cette dimension politique, elle apparaît assez peu dans les articles, dans la manière dont l'ouvrage est reçu. Même chez le roi Ladurie qui produit un article dans le Nouvel Observateur, qui vient de sortir d'une histoire du climat, fait une allusion assez brève à ces questions. Hein, il écrit quant à l'écologie, en résumant l'œuvre de Morin. Elle a situé l'homme comme une simple pièce et plus destructrice que maîtresse dans l'ensemble global de la nature qu'on appelle écosystème. Dans la presse suisse, Charles-Henri Favreau rapproche bien le paradigme perdu d'initiatives écologistes aux États-Unis et en Angleterre. Mais ça se résume un petit peu à cela. Donc c'est avant tout reçu comme un ouvrage épistémologique et non pas comme un ouvrage écologiste. Une petite, tout de même, une exception, mais on va la comprendre, c'est la manière dont Bertrand de Jouvenel reçoit le paradigme perdu, donc cette fois-ci dans une lettre privée à Morin, qu'il écrit en 1978. Donc il a 5 ans de retard dans ses lectures, il s'en excuse. Et il lit évidemment cet essai comme justement une dénonciation de cette hubris humaine. Voilà ce qu'il relève, hein. Il y a une phrase fulgurante. Ce qui caractérise Sapiens, ce n'est pas une réduction de l'affectivité au profit de l'intelligence, mais au contraire une véritable éruption psycho-affective et même le surgissement de l'hubris, c'est-à-dire de la démesure. Et Jouvenel commente, cette pensée ensuite si bien développée est capitale, quelle lumière nouvelle elle jette sur la politique et toutes les sciences sociales, combien elle explique que notre siècle ait vu l'inimaginable, j'entends en mal. Bertrand de Jouvenel, c'est celui qui emploie sans doute de manière pionnière l'expression d'écologie politique en 1957. Pas du tout pour qualifier une nouvelle famille politique, mais pour qualifier un projet de nouvelle économie politique. Néanmoins, il réfléchit à ces questions depuis plusieurs décennies. Voilà, donc sur ces années 70, on peut dire que l'engagement politique de Morin en matière d'écologie reste relativement limité. Sa réforme porte avant tout sur le plan épistémologique, et ça se traduit par la fondation du Centre Royaumont pour une science de l'homme, et ce fameux colloque de 1972, dont il tirera le paradigme perdu. Hein, c'est son intervention qui sera l'embryon de cet ouvrage. Donc c'est une action qui reste relativement cantonnée au milieu académique, et on retient donc son optimisme, son espérance dans la prise en charge de ces questions. 20 ans plus tard, dans les années 1990, le contexte a changé, nous sommes dans un moment d'accélération de la globalisation, des échanges économiques, des échanges culturels, hein, après la disparition des deux blocs. Nous sommes aussi dans un moment où on apprivoise et on essaie de limiter les dégradations environnementales dans des négociations internationales, hein, donc le rapport Brundtland qui crée cette notion de développement durable en 1987 et le sommet de la Terre à Rio en 1992. Voilà. Et dans ce contexte, donc Terre-Patrie est publié donc en 1993. C'est un essai qui est très largement diffusé, très largement chroniqué dans la presse, qui est traduit, qui a une circulation internationale. Hein. L'édition chinoise est épuisée en 1997. Et donc Edgar Morin essaie de penser ces nouvelles problématiques. Tout d'abord, Terre-Patrie essaie de penser ce qu'il appelle la menace damocléenne dans un monde globalisé. Hein, donc cette épée de Damoclès hein, qui pèse sur l'avenir de notre planète. Et il consacre tout un chapitre hein, qu'il intitule « L'agonie planétaire » à une description assez alarmiste, catastrophiste de notre crise écologique. 10 milliards d'hommes à l'horizon 2050, même s'il reste très prudent sur ces questions. Des catastrophes qui n'ont cessé de se multiplier dans les années 70-80, Seveso, Three Mile Island, Bhopal, Tchernobyl, les pluies acides, la contamination des nappes phréatiques, l'empoisonnement du sol. Bref, il prend le temps de faire tout l'inventaire de ces menaces. Il y a un réquisitoire contre le progrès, hein, ce mythe, je cite, qui a déterminé la croyance qu'il fallait tout sacrifier pour lui. Une condamnation de la technicisation généralisée, l'industrialisation généralisée, l'urbanisation généralisée, et également, il déplore le creusement des inégalités nord-sud et en particulier la disparition des cultures locales. Donc, Tout ce discours, tous ces thèmes écologistes font écho au discours qui a été révélé ou en tout cas légué au débat public par René Dumont dès 1974 dans sa campagne présidentielle. Donc la course aux technosciences, les inégalités creusées avec le tiers-monde, la dégradation des écosystèmes et donc cette vulnérabilité de notre planète et à la fois l'espérance que on la reconnaisse comme notre Heimat, notre home, notre terre patrie, en écho à l'ouvrage qui avait préparé la conférence de Stockholm en 1972, l'ouvrage de Ward et Dubos qui s'intitulait « Nous n'avons qu'une terre ». Hein, donc on a ce type de discours. Et donc, Terre Patrie, c'est cette thèse de l'âge de fer planétaire, c'est-à-dire ce hiatus entre la globalisation des échanges économiques microbiens, globalisation des guerres, des pollutions, et à la fois la balkanisation de notre humanité, l'absence de société-monde. Et il utilise, y compris dans sa campagne de promotion publicitaire de l'ouvrage, cette image du vaisseau spatial que Edith Ergon a cité dans sa communication, hein, ce vaisseau spatial ivre conduit par la science, l'industrie, la technique et l'économie. Et ce vaisseau ivre parce qu'il n'a aucune conscience pour le piloter. Donc le problème écologique est posé en termes de gouvernance. Comment est-ce que, quelle remédiation il propose en 1993, l'ouvrage se termine sur la proposition d'un évangile de la perdition. Évangile de la perdition qui est relativement mal compris par les journalistes. Puisque, en réponse à ce constat catastrophiste, Edgar Morin donc propose une religion, dans son sens étymologique, hein, religere, relié, et un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, qui ne serait pas une idéologie du progrès, mais qui, je cite, correspondrait à notre nouvelle ère planétaire ouverte sur l'incertitude et l'abîme et qui ferait sien le mot d'Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et donc, il lance un appel à trouver tonus et volonté dans l'amour, la poésie, et il termine cet essai avec cette espérance dans un élan religieux dans ce sens pour opérer dans nos esprits la reliance entre les humains qui elle-même stimule la volonté de relier les problèmes les uns aux autres. Peut-être envisager une religion terrienne du troisième type qui serait une religion de la perdition. Donc, il appelle de ses voeux une société planétaire, une société fraternelle à l'échelle planétaire. Alors évidemment, les journalistes glosent beaucoup sur ce terme d'évangile, hein, l'évangile selon Morin, Morin prophète, l'évangile de la perdition. Et surtout, beaucoup de questions dans les interviews qu'il donne à la presse portent sur l'avènement, les modalités de l'avènement de cet évangile de la perdition. Dans l'humanité en particulier, Morin est interviewé et on lui pose la question qu'est-ce que c'est que cette espèce de renaissance religieuse qui n'aurait pour fin ni salut terrestre ni salut céleste ? Et Morin répond qu'il y a eu des religions cachées, il y a eu de nombreuses religions cachées dans l'histoire, comme le communisme, et il réexplique son projet. C'est à la fois une mauvaise nouvelle que nous soyons perdus dans l'univers sans savoir pourquoi nous sommes nés et pourquoi nous mourons, et à la fois nous avons une planète commune, et donc il y a un message de fraternité. Il essaie d'expliciter son projet dans plusieurs titres. Pour finir sur ces années 1990, il y a une publication intermédiaire entre Terre Patrie et La Voix, c'est Politique de civilisation, qui est publiée donc avec Samy Nahir en 1997, où, me semble-t-il, il franchit une étape en posant la question de l'action pour, dit-il, pallier les vides de nos politiques. Dans Politique de civilisation, il enrichit le projet qu'il avait posé en 1965 d'anthropolitique. Il l'enrichit en expliquant que la Terre est devenue notre patrie, donc ce qu'il a expliqué quatre ans plus tôt dans Terre Patrie. Et je cite, l'enracinement de cette question, loin de nier les patries particulières, les englobe et seul permettra le minimum de reliance, de solidarité, de fraternité nécessaire pour promouvoir une anthropolitique. Et cette anthropolitique, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit bien qu'elle devrait intégrer un double pilotage de la Terre par les forces éco-organisatrices inconscientes de la vie, donc le monde vivant, et par les forces organisatrices conscientes de l'être humain. Et dans cette définition de l'anthropolitique, il me semble que Morin se situe très clairement dans le camp de ce qu'on appelait dans les années 90 l'écologie profonde, c'est-à-dire appelant de ses voeux une politique qui intégrerait le règne humain dans la communauté des êtres vivants, la biocénose, et donc une politique qui, évidemment, quitterait la relation prédatrice et utilisatrice au monde vivant. Et de ce point de vue-là, il forme une famille de pensée avec, évidemment, son ami Serge Moscovici, mais aussi Lovelock et son hypothèse Gaïa, Michel Serres et son contrat naturel, hein, 1990, et, quelque part, avec Latour et sa cosmopolitique développée en 1999 dans les politiques de la nature. Je dis cela parce que le débat autour de l'écologie dans les années 1990 est quand même dominé par l'essai polémique de Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique, qui est publié en 1992, qui est un essai qui cherche à discréditer les racines de la pensée écologique, hein, en explorant les arrière-fonds, pour ne pas dire les bas-fonds idéologiques. Mais très clairement, Ferry, justement, a pour cible ces auteurs qui, écrit-il, hein, considérant je cite Ferry, hein, Luc Ferry, considérant la culture à la façon de la sociobiologie comme un simple prolongement de la nature, c'est le monde de l'esprit tout entier qu'il mettrait en péril entre la barbarie et l'humanisme, c'est à l'écologie démocratique qu'il appartient maintenant de trancher. On pourra en rediscuter. Dans les années 2010, pour terminer, Edgar Morin se pose en annonciateur, c'est un terme qu'il défend, j'y reviendrai, d'un mode de vie réformé. Il y a La Voix qui est publiée en 2011, mais également toute une myriade de publications qui sont des recueils d'articles. Et le premier d'entre eux, c'est l'an 1 de l'ère écologique, Guérir la Terre en 2010. Donc une myriade de publications dans lesquelles Morin affiche ses positions écologistes, même s'il n'utilise pas le terme. Je dirais qu'il assume un engagement écologique, public, médiatique. Il participe en 2014 au documentaire L'urgence de ralentir. Enfin, il y a toute une voilà, il y a des et puis il s'exprime avec Pierre Rabhi récemment, avec Nicolas Hulot. Donc il entre dans le champ politique et il a une démarche de relativement prescriptive qui est une proposition de réforme de notre mode de vie. Et de manière sans doute significative, dans l'introduction à La Voix, il rappelle sa trajectoire intellectuelle et il revient en particulier sur ce moment fondateur des années 1930 où il a cherché une troisième voie. Hein, donc il explique qu'il a cherché chez Simone Veil, chez Emmanuel Mounier, au parti frontiste de Bergerie. Et donc il y a sans doute un retour à ce temps de l'engagement avec un sentiment d'urgence qui est sans doute amplifié, sans doute une prise en compte de l'alerte environnementale qu'il... Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un homme des regrets, mais en tout cas qu'il aurait négligé dans les années 1970. Et donc, dans tous ces ouvrages, dans ce halo de publications, il revient sur les menaces de manière très concrète, les pollutions, la surexploitation des ressources. Et il insiste sur l'incapacité des conférences de Rio, de Kyoto, de Johannesburg, de Copenhague à imposer des menaces réformatrices. Donc il y a un constat d'échec, un constat de... cette ère écologique n'a pas pris le cours qu'il avait imaginé. Donc voilà, pour cette période des années 2010, est-ce que cet engagement, il le fait au nom d'un constat désespérant ou est-ce qu'il continue à le faire au nom d'un principe, au nom du principe espérance ? Il entre, le premier point, c'est que il entre vraiment dans l'action, on a vraiment le sentiment que ses réserves sur l'écologie de l'action sautent. C'est-à-dire cette idée que finalement, depuis l'époque communiste, il avait cette réserve par rapport à l'engagement, parce que il avait expliqué de manière extrêmement détaillée que finalement, tout édifice théorique échappe à son concepteur en circulant et en étant réapproprié, comme Marx et comme bien d'autres. Et donc, ces verrous, j'ai l'impression, sautent un petit peu. Et dans les années 2000, il endosse un fardeau colossal. Hein, il écrit dans La Voix qu'il cherche la voie susceptible de sauver l'humanité des désastres qui la menacent. Ce qui n'est pas rien. Et donc, il entre vraiment dans des positions politiques. Il condamne la voie du développement durable, qui reste pour lui embourbée dans un aveuglement techno-économique. Il dit sa sympathie pour le mouvement altermondialiste, en particulier dans Guérir la Terre. Hein. Il dit que voilà, ce sont des militants qui, les premiers, se sont considérés comme citoyens du monde. Et pour lui, il y a là un phénomène d'avant-garde de cette conscience de la terre-patrie. Et il entre dans le détail de prescriptions politiques extrêmement détaillées sur le redéveloppement de l'agriculture vivrière, la relocalisation de la consommation, des prescriptions en matière urbaine, en matière démographique, etc. La liberté de circuler à donner aux migrants, en particulier aux migrants environnementaux. Et il adresse son discours aux hommes et aux femmes politiques. Alors, dans les archives de l'IMEC, c'est très clair. Alors, je suis pas exactement sûre d'avoir le droit de citer. J'ai demandé à François Borde, il m'a pas répondu. Donc, bon, bref, peu importe. L'an 1 de l'ère écologique, que vous citiez, Edith, donc ce recueil d'articles publié en 2007, est publié dans le cadre des élections législatives et présidentielles de 2007. Et les politiques répondent à Edgar Morin, accusent réception et avec beaucoup de déférence, lui envoient soit des petits cartons, soit des lettres plus détaillées. Donc, on a tout un florilège de lettres de remerciement. Alors, François Bayrou, vous connaissez l'intérêt que je porte à l'environnement. Votre contribution à ce débat majeur est précieuse. Marie-Georges Buffet, c'est un geste que j'apprécie à sa juste valeur. Vous êtes parmi ces grands intellectuels qui, parce qu'ils conservent une conscience aiguë sur le monde, résistent et veulent mettre leurs idées et leurs travaux à disposition des politiques. Ségolène Royal, qui fait une réponse très très longue, sensible à l'envoi de votre livre, lequel, je suis certaine, m'apportera de nouvelles idées et réflexions. Je tenais sincèrement à vous remercier et vous remercier encore de votre soutien. Comme je l'ai dit, je réaffirme mon engagement à mettre en œuvre, si je suis élue, le pacte écologique, etc. etc. Bon. Donc, on voit qu'il y a un désir d'efficacité, j'ai l'impression, d'efficacité politique qu'on ne percevait pas précédemment dans en tout cas dans les campagnes de promotion, ni du Paradigme perdu, bien sûr, ni de Terre Patrie. Deuxième point sur ces années 1900, sur ces années 2010, Edgar Morin déplace ses prescriptions en matière de nouvelle ère écologique du côté de la réforme du mode de vie. La réforme du mode de vie, c'est une tradition ancienne de la pensée écologique qui remonte au XIXe siècle. Et donc, on voit que sa pensée vraiment porte sur le détail de nos vies quotidiennes. J'ai sélectionné cet extrait, en particulier pour la fin, sur les automobilistes. Les automobilistes, enivrés par l'énergie que déclenche une minime impulsion du pied, s'insultent mutuellement pour un rien. Partout, pleuve, les connards, fumier, ordures. Ça me faisait penser à René Dumont. La voiture, ça pue. C'est quoi ? Ça pue, ça pollue et ça rend con. Voilà. Donc, il y a vraiment un diagnostic sur le dysfonctionnement de nos vies quotidiennes. Et en réponse, il nous propose des expériences édifiantes hein, qu'il voit comme des magistrats vitae, c'est-à-dire voilà, des expériences du passé qui peuvent nous éclairer et nous donner un point de mire. Et en particulier, il développe l'exemple de Monte Verita, de la communauté de Monte Verita, qui est un exemple de communauté justement de Lebensreformbewegung, qui est créée donc en 1900, qui est une communauté végétarienne fondée donc dans la région du Tessin, qui va durer une vingtaine d'années. Et qui propose tout un mode de vie réformé avec un vêtement réformé, c'est-à-dire sans entrave, un discours très critique vis-à-vis évidemment du capitalisme et un mode de vie naturel et simple, sain, alliant théorie et pratique, où on pratique à la fois la méditation dans les huttes d'air et une danse et la danse expressive sans la médiation de la musique, hein, en harmonie avec la nature environnante. Donc, cet exemple qu'il développe également dans des interviews qui me mettaient la puce à l'oreille, et c'est également tout le vocabulaire de la régénération qu'il utilise dans ses écrits dans ces années-là. Il écrit hein, « La réforme de vie est indissociable d'une régénération éthique, elle-même indissociable d'une régénération du civisme, elle-même indissociable d'une régénération démocratique, elle-même indissociable d'une régénération des solidarités et de la responsabilité. Non, j'ai pas mis ça. De régénération des solidarités et de la responsabilité, tout en étant inséparable d'un processus complexe humain, social, politique, historique, comportant une réforme de l'habitat, de la consommation, de l'éducation. Et donc, ce vocabulaire, ce lexique de la régénération est tout à fait propre à ce mouvement de la réforme du mode de vie et plus largement à toute la racine naturiste de la pensée écologique qui repose sur la certitude que la régénération à l'échelle locale et à l'échelle individuelle du corps et de ses vertus naturelles permettra de lutter contre la dégénération physique et morale de la civilisation industrielle. On a tous les travaux d'Arnaud Bobéro qui sur lesquels on peut s'appuyer. Dans cette réflexion sur la réforme du mode de vie, l'éducation est au cœur de sa réflexion et c'est un petit peu anecdotique. Dans les archives d'Edgar Morin, j'ai trouvé trace de l'abonnement. Alors c'est Edwige Naoum Morin qui est l'abonné, mais une trace de l'abonnement à la Hulotte, que vous connaissez peut-être, qui est cette petite publication d'éducation justement naturaliste, qui témoigne notamment de cette sensibilité à l'éducation, à l'environnement dans le couple à l'époque. Dernier point, est-ce que Je termine. Dernier point. Comment Morin a-t-il requalifié son engagement dans la cité ? Je l'ai dit, toutes les réserves qu'il avait sur le risque de dérive idéologique semblent être mises à distance. Voilà, on peut se poser la question de ce qui est le moteur de son action dans ces années 2010. Est-ce que c'est l'espérance ou est-ce que c'est la désespérance ? Alors, dans La Voix, il écrit « Ce qu'on peut espérer, c'est non plus le meilleur des mondes, mais un monde meilleur. C'est non plus le meilleur des mondes, mais un monde meilleur. » Et pour appuyer cet aphorisme, il décrit des myriades d'initiatives qui fleurissent un peu partout sur la planète et qui montrent voilà, qu'on est finalement on est bien dans la construction de cette nouvelle ère écologique. Il me semble que Morin appelle à aller au-delà de la critique, à proposer une alternative. Dès le début de La Voix, il l'affirme en écrivant « Il ne suffit plus d'énoncer, il faut désormais énoncer. Il ne suffit pas, de rappeler l'urgence, il faut aussi savoir commencer et commencer par définir les voies susceptibles de conduire à la voie. Le message qui indique la voie est en cours d'élaboration, c'est ce à quoi nous essayons ici de contribuer. » Je l'ai mis en regard avec la 11e thèse de Feuerbach, qui est une invitation aussi à l'engagement. Et donc, quel statut Morin se donne dans cette transition, dans cette métamorphose? J'ai bien aimé l'extrait d'une émission radiophonique qui date de 2011, hein, dans la promotion de son ouvrage La Voix. Il répond au journaliste qui lui dit « Alors, monsieur Morin, vous êtes prophète. » Et il répond « Ni prophète, ni messie, mais je voudrais bien quand même être un annonciateur. Voilà. » Donc, voilà comment il se définit en 2011. En conclusion, je crois que l'énigme reste entière du contraste entre l'aveu d'une situation désespérée et l'espérance que Morin veut transmettre envers et contre tout. Comme dans un hommage funèbre, on parle toujours un peu de la force qu'un ami nous lègue. Je voulais vous soumettre ce que Morin retient de Castoriadis en 1998, Castoriadis décède à la toute fin, en 97, et voilà l'hommage qu'il lui rend. Voilà la leçon de vie que Castoriadis nous donne, et nous donne au-delà de sa disparition. Sachez accepter la solitude et l'incompréhension, résister. Comme l'a dit Shelley à la fin de son Prométhée délivré, souffrir des maux que l'espoir même juge infini, défier le pouvoir qui semble omnipotent, aimer et supporter, espérer jusqu'à ce que l'espoir crée de son propre désastre l'objet qu'il se propose, ni changer, ni hésiter, ni se repentir, cela, comme ta gloire, Titan, est être bon, grand, heureux, beau et libre. »